nous avons donc maintenant une table ronde qui est consacrée plutôt au thème du monde perdu, à travers l'œuvre de deux écrivains, l'un qui travaille ouvertement sur le thème du monde perdu, James Gurney, et l'autre qui pourra nous donner, donc Thomas Day, qui nous donnera sa vision peut-être plus personnelle des lendemains qui chantent, comme on disait autrefois. Donc je vous présente brièvement les participants. Thomas Day est donc écrivain et éditeur de science-fiction et de fantasy. C'est un contributeur, un des principaux du magazine Bifrost, que les spécialistes connaissent. Directeur de la collection Lune d'encre, a écrit une cinquantaine de nouvelles, c'est ça ? Une dizaine de romans ?
12 romans ou 13 romans, je ne sais plus.
Donc, vous connaissez sans doute son cycle La Voix du Sabre. Il a écrit Le Trône d'Ébène, prix Imaginal 2008, L'Automate de Nuremberg, La Maison aux fenêtres de papier. Voilà. À mon extrême droite, si j'ose dire, James Gurney, auteur, illustrateur américain, qui, on peut le dire, est mondialement connu pour avoir créé les livres et les univers de Dinotopia, et qui est, c'est assez intéressant de le souligner, qui a une formation d'archéologue et d'anthropologue. Stop me if I'm wrong. Et qui a commencé donc sa carrière picturale dans les années 80 en s'inspirant de modèles assez académiques et aussi des illustrateurs du Golden Age, de l'âge d'or. Il s'est intéressé aussi, ce qui peut expliquer aussi, on reviendra tous à son œuvre, les reconstructions archéologiques de diverses civilisations, que les Étrusques par exemple, et qui ont peut-être, on lui posera la question, l'ont amené à une sorte de panorama superbe, grandiose, je dirais, des mondes perdus. Donc, Dinotopia est publié en 1992, est un vrai best-seller. À ma gauche, Gilles Menegaldo, qui est professeur de littérature américaine à l'université de Poitiers, qui a travaillé depuis bien longtemps déjà, à ce qu'on pourrait appeler la littérature de l'imaginaire, qui a contribué à beaucoup de colloques, notamment à Cerisy, sur des différents secteurs tels que l'horreur, un grand spécialiste de Dracula notamment, et qui a travaillé aussi sur le gothique, qui a donc participé à pas mal de publications qui sont des actes de colloque souvent ou
des ouvrages collectifs, des ouvrages individuels aussi.
Voilà, que vous trouverez d'ailleurs certainement là-haut. Donc, bienvenue à tous. Et je voudrais, en guise d'introduction, peut-être expliquer, sinon expliciter, le titre « Les horizons sont-ils perdus ?». Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'imaginaire, et notamment l'histoire de la science-fiction, ce titre se réfère ouvertement à un livre de James Hilton qui est paru en 1933, qui s'appelle Lost Horizon, Les horizons perdus, et qui est en fin de compte, qui a créé une sorte de mythe à l'époque qu'on appelait le mythe de Shangri-La. Et peut-être les cinéphiles connaissent, on reviendra également sur le film qui en était tiré par Frank Capra, qui porte le même nom et qui date
1937,
c'est-à-dire donc 4 ans après. C'est intéressant de voir, je crois, que les deux œuvres ont paru avant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que le contexte agité des années 30 est à étudier lorsqu'on étudie justement, lorsqu'on remarque l'évolution, sinon la fin, du thème du monde perdu. Un dernier mot, je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous le thème du monde perdu dans l'histoire de la science-fiction. C'est un Français, Jules Verne, qui a le premier, dans Voyage au centre de la Terre, envisagé la survie d'un monde intérieur. Et depuis, plutôt d'ailleurs dans la sphère anglo-saxonne, il y a eu un nombre incroyable de livres qui ont été écrits à la fin du 19e siècle et au début du 20e sur donc la survie d'enclaves, d'isolats, où on trouve aussi bien d'ailleurs des animaux préhistoriques, mais pas forcément. Hein, on trouve également des survivants des civilisations perdues, on trouve des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Vendéens, qu'est-ce que je raconte ? Enfin, toutes sortes donc de peuples qui sont censés être disparus et qui, en fin de compte, survivent. Et donc, le thème du monde perdu est tout à fait typique, je dirais, des années 1860-1920, parce qu'il est en phase directe avec l'archéologie, la paléontologie, les nouvelles sciences et également, bien sûr, la colonisation. Hein, si vous voulez, si vous prenez tous ces ingrédients ensemble, vous avez donc toute la thématique des mondes perdus qui est fondée en fin de compte sur la découverte par des contemporains, des aventuriers, des savants, d'une sorte d'enclave qui a été épargnée, qui a été épargnée, qui a échappé à l'entropie, qui a échappé au temps. Dans un premier temps, ça se passe pas bien du tout pour le monde perdu. Le plus souvent, il suffit que l'explorateur arrive et dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Il y a une éruption où il fait tout sauter. Hein. Dans un deuxième temps, au début du siècle, les choses commencent à devenir très complexes où, en fin de compte, tout s'inverse et on découvre, en fin de compte, que le peuple dit perdu est capable de se révolter. Et dans les années 1920 et 1930, on observe un renversement total de cette thématique où justement c'est l'irrationnel qui va triompher et ce sont les peuples perdus qui vont venir menacer notre propre civilisation. C'est un petit peu, si vous voulez, je prends l'exemple le plus connu, ou un des exemples les plus connus, l'œuvre de Lovecraft. Alors, on peut dire d'une certaine façon que le thème du monde perdu s'arrête avec le deuxième conflit mondial, comme si ces grandes utopies, ces grands rêves étaient soudain brisés par donc ce conflit. Donc c'est tout à fait intéressant de trouver donc des écrivains qui continuent de perpétuer, qui perpétuent en fin de compte ce mythe dans une époque qui est peut-être assez troublée, peut-être pas aussi troublée que les années 30, mais enfin le débat est ouvert. Et donc voilà un petit peu l'enjeu de ce débat. Voilà, donc on va se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui cette thématique est encore valable pour le monde actuel ? Est-ce que les horizons sont vraiment perdus ? Est-ce que vraiment c'est l'apocalypse ? Ou alors est-ce qu'il y a un espoir ? Est-ce qu'on peut encore trouver quelque part dans le monde, sous nos pieds, dans quelques jungles ? Est-ce qu'on peut encore imaginer qu'il y a une enclave préservée où on peut retrouver le paradis perdu ? Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais je crois qu'il s'agissait tout de même de reconstituer un petit peu cette problématique. Donc peut-être j'ai envie de demander à Thomas Day comment il perçoit, lui, cette thématique. Est-ce que pour lui, ça lui semble totalement impossible, lui qui tout de même se prête plutôt à une thématique apocalyptique? Est-ce qu'en fin de compte, on peut encore essayer, jeune écrivain, d'imaginer des mondes perdus aujourd'hui?
Il y a deux questions dans la question. D'abord, la première, c'est qu'à mon sens, il y a encore aujourd'hui sur Terre des mondes entre guillemets perdus, des endroits préservés du tourisme de masse et où on peut voyager, on peut rencontrer les gens. Il y a 5-6 ans, j'étais au Laos officiellement pour étudier le bouddhisme et officieusement pour découvrir la jungle, les montagnes du Laos, qui étaient des endroits où les Blancs n'allaient pas ou ne venaient plus depuis la guerre du Vietnam. Et je me suis entre guillemets perdu dans la jungle et je suis arrivé dans des villages où j'étais sac à dos allant après un jour de bateau ou après un jour de marche où il n'y a pas de route du tout. Et dans ces villages, j'ai été frappé de voir que les enfants portaient des t-shirts Britney Spears et des t-shirts Eminem et des choses comme ça, mais qu'à côté ils n'avaient jamais vu un blanc. ils avaient 10, 15 ans et j'étais le premier blanc qu'ils voyaient et ils me touchaient, ils étaient surpris et ils voulaient discuter avec moi et comme je baragouinais un petit peu de laotien, je discutais un peu avec eux. Et donc il y a encore des endroits sur Terre où le produit, le merchandising arrive, mais où les gens ne vont pas parce que ben, il n'y a pas de truc à regarder, il n'y a pas de temple intéressant et en fait il n'y a que des gens à rencontrer, des gens qui ont des modes de vie. Au Laos, il y a des gens qui vivent comme on vivait encore il y a 2000 ans à certains endroits. Quoi.
D'accord. Mais en tant qu'écrivain, est-ce qu'on peut imaginer donc alors, une thématique qu'on peut adapter aujourd'hui ?
Je pense que cette thématique, à mon sens, elle est éternelle. Le Jardin d'Éden, il y a longtemps. Et quand on regarde les films, quand on regarde les livres, il y a beaucoup de choses sur le monde perdu, bien récentes. Par exemple, les mystérieuses cités d'or, ce n'est que une série sur les mondes perdus. On rêve sur les Olmecs, les Toltecs, etc. Bon, c'est vrai que c'est des peuples qu'on ne connaît pas et on voit des machines gigantesques, des machines qui n'existent pas même de nos jours. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein de livres qui parlent de terre creuse, des livres récents. Je pense que c'est un thème qui ne disparaîtra jamais. Qui va évoluer, qui va revenir en arrière. Il y a beaucoup de livres steampunk où il est question de terre creuse. Il y a beaucoup d'Uchronie où il est question d'utopie. On parle beaucoup de Libertalia. On parle beaucoup de les utopies pirates qui n'ont pas existé. Pour moi, c'est un thème éternel. C'est pas forcément celui que je traite, encore que ça m'est arrivé de parler un petit peu de choses qui ressemblent à des mondes perdus. Mais je pense que ça ne disparaîtra jamais de la littérature parce que les gens auront toujours envie de rêver, tout simplement. Oui.
Je vais passer la parole à James Gurney. Bon, vous avez déjà expliqué dans pas mal d'interviews comment, en fin de compte, vous avez construit votre univers. Moi, en modeste spécialiste, ce qui me frappe tout de suite, c'est de voir en quoi vous vous défendez de l'être. Vous bâtissez un univers tout de même qui semble régressif, mais en fin de compte, vous n'êtes pas d'accord avec cette vision-là. Vous pensez que cette vision de Dinotopia, tout le monde a vu ces superbes illustrations en rentrant, vous pensez que ce n'est pas du tout un univers régressif, mais au contraire, un univers qui est valable pour notre monde contemporain.
The inspiration for Dinotopia does come from some of the works of the past that you mentioned in your introduction, especially Lost Horizon and the works of Jules Verne. But I think that those works of fiction grow out of the science and of the times of discovery, especially the work Lost Horizon grows out of Tibet being the last place on Earth that was undiscovered.
Effectivement, donc Loric Guillot a raison de souligner que la principale inspiration de Dinotopia, ce sont des livres ou des films comme Les Horizons Perdus, et que ce sont effectivement le développement de ce thème est lié à la découverte scientifique de son époque. Donc, par exemple, Les Horizons Perdus, c'était pourquoi il y a eu ce projet de livre et de film, c'est parce que le Tibet, à l'époque, était considéré comme le dernier pays à découvrir au monde, dernier pays qu'on venait de découvrir.
So in creating a fantasy, the first step is to make it believable. And I considered at the beginning, starting with the discovery of something sunk at the bottom of the ocean, something discovered by Robert Ballard, perhaps. But then I realized that it would be hard to believe that, so I wanted to set my story in the 19th century and at a time when the world was still unexplored.
Au début, la première chose à faire quand on veut créer un monde fantastique, c'est de le rendre crédible. Donc au début, son premier projet, c'était de situer ce monde à lui dans peut-être un endroit sous-marin, quelque chose qui aurait pu être découvert par Robert Ballard. Mais bon, il s'est dit que finalement, c'était invraisemblable. Donc c'est pour ça qu'il a situé l'action de Dinotopia au 19e siècle, qui était une époque d'exploration où il y avait encore des endroits que l'on découvrait.
And that spirit of wondering about places where time has stopped is a universal feeling at any time in history, I believe. At least it is for me. And so my job as a writer was to create that atmosphere in a story so that the reader could enter a place that they could believe in and transport their imagination.
L'idée qu'il puisse exister à un endroit où le temps s'est arrêté, c'est quelque chose qui émerveille tout le monde. Et donc, c'est ce qu'il s'est efforcé de recréer, de susciter ce sentiment d'émerveillement en créant Dinotopia. I'm making it short.
Intervenir sur.
Gilles, peut-être sur l'aspect cinématographique ou
Oui, enfin non, c'est par rapport aux images que j'ai vues de Dinotopia. J'ai été frappé par le fait que vous créez un monde où finalement les humains et les dinosaures coexistent. En bonne intelligence à certains égards. Bon, certains, ils participent non seulement, ils sont pas simplement ils aident, disons, dans la vie quotidienne ou par exemple pour lutter contre les incendies, etc. Mais ils participent aussi à des jeux communs, des jeux de masques, des déguisements, etc. Ils s'imitent les uns les autres. Donc il y a une intelligence entre les deux, ce qui va tout à fait à l'encontre d'une tradition où, au contraire, les dinosaures, par exemple, sont les ennemis de l'homme et ne sont jamais considérés en tant que tels. Bon, évidemment, l'exemple canonique qui vient de la littérature, c'est Le Monde perdu de Conan Doyle, qui a donné lieu à d'une part, à une première adaptation en 1935 de Hoyt, avec des effets spéciaux célèbres, Willis O'Brien, donc, qu'on retrouve aussi dans King Kong, évidemment, puisque toute la première partie de King Kong, c'est quand même la confrontation des humains et des dinosaures. Voilà, donc j'ai trouvé assez remarquable que vous ayez pris le contre-pied de ça, et bien sûr le contre-pied aussi de Jurassic Park, à d'autres raisons. Et j'ai trouvé votre création imaginative extraordinaire, avec effectivement ce renvoi dans le 19e, donc, qui était très à la mode d'ailleurs, hein, puisqu'on le trouve aussi dans les bandes dessinées, dans les romans graphiques d'Alan Moore, par exemple, le côté steampunk. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'imaginaire du 19e qui colle assez bien avec ça. Voilà. Moi, je reviendrai plus tard sur le film de Capra, mais voilà, je voulais juste intervenir sur votre œuvre et vous dire que je l'admire beaucoup.
Thomas, vous voulez dire quelque chose ? Non. Je trouve ça très intéressant, évidemment, mais est-ce qu'en fin de compte, vous ne quittez pas, d'ailleurs ce qui n'est pas du tout un reproche, le créateur est libre, vous ne quittez pas la sphère typique de la dialectique des mondes perdus en créant quelque chose qui ressemble plutôt à une sphère de fantasy que les Anglais appellent le never world, c'est-à-dire un monde, vous dites que c'est un monde crédible, et en fin de compte, pour moi, c'est un monde sans aucune crédibilité. C'est-à-dire, à part, bien sûr, la crédibilité du spectateur, qui est la plus importante. Mais je veux dire, pour moi, la crédibilité en tant que critique, c'est, par exemple, ce qu'on appelle la rhétorique de la vraisemblance, hein, verisimilitude, hein. Là il y en a absolument aucune, mais ça n'a aucune importance. Mais je veux dire, ce faisant, vous vous écartez, pour moi, de la thématique classique des mondes perdus, qui crée un sentiment soit de merveilleux, soit d'horreur, de terreur, parce que justement on est face à un monde qui existe vraiment. Or, le monde que vous créez n'est pas un monde, n'a pas d'intermédiaire, à part le spectateur, comme vous le dites très très bien. Il saute à l'intérieur et il est heureux, comme une sorte de monde édénique. Mais il n'y a jamais chez vous, par exemple, l'explorateur contemporain qui pénètre par effraction dans ce monde, et puis, bien sûr, les conséquences. Donc, pour moi, c'est une forme, de personnelle, de variation superbe, à mon avis, sur un mythe, mais que vous faites évoluer pour correspondre, justement, à la phase actuelle de désespoir du monde.
Yes, I think you're right in observing that the approach to the fantasy world or the lost world is different in Dinotopia. Also in the way, Gilles, that you mentioned the approach to dinosaurs. In most earlier stories, King Kong and Conan Doyle treat the dinosaurs as monsters, and the storyline is a dramatic story of conflict, but I was more influenced by Jonathan Swift and a more episodic story.
Vous avez tout à fait raison donc de dire qu'il y a une rupture entre ce que je fais et les précurseurs, donc que vous avez cité Conan Doyle, etc., King Kong. Mais il était plus influencé, lui, en créant Dinotopia, par Jonathan Swift, par les voyages de Gulliver.
But perhaps in one respect, the approach to dinosaurs is not backward-looking, because Most of the ideas about dinosaurs came from talking to scientists, in particular Jack Horner in Montana, who discovered that some dinosaurs took care of their young. This was a new idea of dinosaurs as parents in the way birds are parents of their young. And this side of dinosaurs as nurturing creatures, intelligent creatures, was a new idea in science. And paleontologists have told me that, from their point of view, the cycles of interest in the public in dinosaurs grows out of their new discoveries.
Hmm. Une autre rupture dans le livre, c'est ne pas voir des monstres dans les dinosaures, c'est qu'en fait, il s'est renseigné auprès des paléontologues, des spécialistes. Donc, il a découvert ce qu'il venait de découvrir récemment, c'est que les dinosaures, contrairement à une légende bien entretenue, prenaient soin de leurs petits, un peu à la façon des oiseaux. Et donc, c'est l'intérêt, pense-t-il, lui ont dit ces paléontologues, l'intérêt du public pour les dinosaures qui s'est renouvelé ces dernières années, et donc qui correspond en partie au triomphe d'Inotopia, vient de ces nouvelles perceptions sur les dinosaures.
C'est tout à fait juste, mais je voudrais juste, même pas corriger, je me permettrai pas, mais peut-être rappeler qu'en fin de compte, le monde perdu de Conan Doyle ne donne pas simplement, sinon on ne comprend rien au livre, une version horrifique du dinosaure. Il faut bien se comprendre que la vertu essentielle du monde perdu, que ce soit d'ailleurs celui de Conan Doyle, qui est la plus connue, mais il y en a eu d'autres après, c'est de faire alterner le merveilleux et la terreur. Et on passe de l'un à l'autre. Et ce qui est assez extraordinaire, parce que tout de même ça date de 1912, hein, c'est que Conan Doyle, qui connaissait très bien lui aussi les dinosaures, qui connaissait bien Ray Lankester, le paléontologue, le conservateur du British Museum, il a bâti ces dinosaures d'une manière tout à fait scientifique, mais sans le vouloir, il a fait une typologie avec les dinosaures bienveillants, les gentils, qui sont en général les plus gros, les brontosaures. Vous voyez, je vois certains sourient parce qu'ils pensent immédiatement au brontosaure chez Spielberg. Donc même Spielberg, lui aussi, s'est inspiré de cette typologie chez Conan Doyle, et, où il y a, en fin de compte, coexistence dans un même monde perdu dinosaurien de braves bêtes qui sont plutôt des bêtes de fantasy, hein, où on peut grimper sur le dos, tels des enfants. Hein, c'est ça, l'aspect régressif. Ah, si j'étais un enfant, le Never Never World. Et puis, d'un seul coup, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, le Tyrannosaure Rex va constituer le paroxysme de la terreur. Et Spielberg va ajouter les Vélociraptors et tous ces noms. C'est très intéressant, là. On n'a pas le temps de parler de ça. L'onomastique en la matière. Il faut savoir que dinosaure, ça veut dire lézard terrible. C'est-à-dire que quand Owen, parce qu'il faut bien créer un mot, lorsqu'on sort ces étranges ossements au milieu du 19e siècle, il va les appeler dinosaures. Déjà, le seul fait d'appeler ces ossements, de leur donner un nom, c'est déjà, d'une certaine façon, appeler à l'imaginaire et les mettre sur un registre, les placer sur un registre d'horreur ou de terreur. C'est très intéressant. Et donc, en fin de compte, vous gommez complètement l'aspect terrible du monde perdu pour en sauvegarder quelque chose qui me semble aussi important que l'aspect terrible, c'est l'aspect merveilleux. Je pense à cette scène extraordinaire où le professeur Challenger et le professeur Samely voient un brontosaure. Ils s'agenouillent devant, ils se prennent la main et ils sont au paradis de leur enfance. Et j'ai eu la chance moi-même de connaître un scientifique que certains connaissent, le professeur Bernard Revelmans, l'inventeur de la cryptozoologie. Lui, qui était un véritable scientifique, il a toujours lu Le Monde Perdu de Conan Doyle comme une sorte de paradis cryptozoologique. Je ne sais pas si vous connaissez la cryptozoologie.
Yes, and I think that Conan Doyle, his approach to fantasy was also based on the science. And one of the things that I've tried to do recently with the latest book is to explore some of the dinosaurs that have been found with feathers and that have been found in China. And that has completely changed our view of dinosaurs as well, because there was one dinosaur with four wings on the front legs and the back legs, that was stranger than fantasy, stranger than we could imagine. And to me, that's what appeals to me about dinosaurs, is that we know they existed, but we can still project our consciousness into them in some way, and we must use our imagination to complete them. So Jurassic Park came out, the movie came out the year after Dinotopia, and I didn't read the novel until after I was finished.
Effectivement, il savait que Conan Doyle avait travaillé avec des scientifiques pour créer ces dinosaures, mais lui aussi, et justement dans le dernier volume qu'il a consacré à Dinotopia, il s'est plus particulièrement intéressé à des dinosaures dont on a récemment découvert l'existence, après la mise au jour de squelettes en Chine, qui étaient des dinosaures qui avaient des ailes. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, ça a bouleversé pas mal de conceptions, et lui, ça lui a donné de nouvelles idées. Alors, à propos de Jurassic Park... the movie came out 1 year after your book.
Yes.
But the book came out...
His book came out while I was working on it.
Voilà. Le film de Jurassic Park est sorti un an après son livre, et lorsque le roman de Michael Crichton est sorti en librairie, lui, il était en train de travailler à Dinotopia. Et donc, il s'est fait un point d'honneur à ne pas regarder, à ne pas ouvrir le livre de Crichton tant qu'il n'avait pas fini le sien.
En tout cas, merci de nous montrer que la science ne sert qu'à une seule chose, nourrir l'imagination.
Thanks for showing us that the use of science is to feed the imagination.
Yes. OK. Thomas, qu'est-ce que vous pensez justement de ce rôle de la science qui permet sans arrêt de renouveler l'imaginaire?
C'est une vaste question. Les nouvelles technologies... donne des nouveaux pans de la littérature, ou du moins des nouveaux pans de la science-fiction. Je pense notamment à un auteur australien qui s'appelle Greg Egan, qui va réfléchir, par exemple, à comment on sauvegarde l'esprit humain sur un support informatique, et qu'est-ce que ça implique. Est-ce que quelqu'un qui est sauvegardé sur un support informatique devient immortel? Est-ce que c'est seulement sa mémoire qui est sauvegardée? Est-ce que son âme est sauvegardée? Tous ces questionnements qui vont jusqu'à la métaphysique et la philosophie découlent des progrès qu'on fait en science sans arrêt sur l'informatique, sur la biologie, sur la médecine. Donc j'ai toujours trouvé que le champ de la science-fiction était sans limite. Dès que la science découvre quelque chose, ben la science-fiction s'engouffre et découvre des tas d'autres choses, extrapole. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait rêver dans cette littérature-là. C'est réfléchir, que les écrivains trouvent des choses que les scientifiques n'ont pas encore trouvées. Serge Lehmann avait l'habitude de dire un bon écrivain de science-fiction, c'est pas celui qui pense à la voiture, c'est celui qui pense à l'embouteillage. Et moi, quand on voit les progrès de la génétique, on voit les progrès de la physique quantique et autres, ce qui est intéressant, c'est pas de penser à ce qu'on fait aujourd'hui, mais tous les effets pervers, tous les effets directs que ces progrès vont entraîner et qui sont de formidables sujets de romans, évidemment, de nouvelles et autres.
Merci. J'aimerais revenir à une des spécificités donc, des horizons perdus, c'est-à-dire l'utopie ou la mort des utopies, parce que c'est aussi un débat tout à fait actuel. Bon, il se trouve qu'en 1933, d'une certaine façon, les horizons sont perdus, c'est-à-dire que le roman dont peut-être tu vas nous parler, le roman signe l'acte de décès des mondes perdus comme espoir. Et en effet, petit à petit, il y a un passage extraordinaire du père Perrault, celui qui dirige la Lamasserie, et qui a d'ailleurs 200 ans, et qui dit, vous autres occidentaux, vous n'êtes pas prêts à la sagesse orientale et vous allez disparaître dans l'Apocalypse. C'est assez troublant de lire cet avertissement lancé 6 ans avant le deuxième conflit mondial. Donc, Capra, qu'est-ce qu'il va faire, en fin de compte, de ce roman?
Alors, bon, c'est un film assez extraordinaire, une sorte d'ovni, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de films qui a tenté de mettre en image, disons, et en son, donc cet univers d'utopie réalisé. Donc le film est fait en 1936-37 et c'est un film qui a été restauré récemment, qui a connu pas mal de problèmes, puis un véritable tour de force, hein, puisque rendre compte d'une expédition au Tibet, montrer les personnages perdus dans la montagne, confrontés aux blizzards, aux avalanches, etc., ça n'allait pas de soi. Donc il y a toute une série de techniques qui sont expliquées dans le bonus du DVD, hein, j'en parle. Alors ce qui est assez intéressant, c'est... comment dire, la manière dont le Hollywood, et Capra en particulier, qui est quand même considéré comme un cinéaste assez optimiste, hein, c'est lui qui a écrit, qui a fait le film qui s'appelle It's a Wonderful Life, hein, La vie est belle, où un ange aide un mortel à revenir sur Terre et revivre sa vie en quelque sorte. Thème qui a été repris d'ailleurs par Spielberg, autant que je sache ensuite. Donc Capra va donner une approche optimiste un petit peu, c'est-à-dire qu'à la fin, le personnage donc du diplomate qui au départ en fait est littéralement enlevé. Je résume l'histoire brièvement. Il y a une révolution en Chine et ce diplomate donc est chargé, c'est Ronald Coleman l'acteur, qui est chargé donc de sauvegarder des Européens, de les empêcher d'être victimes de cette révolution. Mais lui-même est enlevé à la demande d'une femme qui habite donc cette région, cette vallée de Shangri-La, cette vallée où une utopie a été réalisée effectivement, et il se retrouve avec ses compagnons après donc des péripéties assez nombreuses dans cette vallée. Et cette vallée, donc, on parlait à l'instant de temporalité, d'immortalité, effectivement, c'est une vallée où les lois naturelles en quelque sorte ne fonctionnent pas, ou du moins ne fonctionnent pas totalement, puisque le fondateur de la communauté, qui est un prêtre jésuite en plus, donc c'est intéressant, ce syncrétisme aussi religieux, en fait, va mourir à 200 et quelques années. Par contre, dès qu'on ressort de la vallée, une des femmes va ressortir de la vallée à un moment, elle vieillit instantanément, pratiquement. Voilà. Alors, la différence entre le roman et le film, c'est que dans le roman, l'utopie ne peut se réaliser finalement, parce que les Européens ne sont pas prêts. La guerre arrive, et donc il y a déjà une annonce de la catastrophe à venir à certains égards, alors que Hollywood évidemment, et Capra en particulier, va faire de cette fin une happy end. Le personnage de Conway, qui est revenu dans la civilisation, retourne à la fin, n'a de cesse que de revenir dans cette vallée perdue pour reprendre le flambeau en quelque sorte de la communauté que lui a confié le père Perrault. Alors il y a deux versions, c'est intéressant aussi. Il y a une version où on voit le personnage qui revient totalement épuisé donc dans cette vallée, et on a un contre-champ, on parlait tout à l'heure de champ contre-champ, sur la femme qu'il aime et qui l'attend au sommet, littéralement, près de la vallée, dans l'entre-deux entre le monde civilisé et le monde perdu. Par contre, dans la version voulue par Capra, ce plan de femme n'existe pas. On a simplement un plan du personnage qui regarde sur la vallée, donc un plan en plongée donc sur cette vallée qu'il vient de redécouvrir. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un double infléchissement. L'infléchissement du roman à la version de Capra, et l'infléchissement de la version de Capra, non voulue par Capra, et celle plus hollywoodienne encore, où le happy end est sanctionné aussi par une histoire d'amour. Voilà. Donc là, il y a quand même, ces variations qui sont intéressantes et qui montrent comment Hollywood transforme, tord un petit peu le message du livre. Voilà, pour dire les choses très rapidement, mais je vous conseille de voir ce film qui est absolument admirable.
Oui, c'est tout à fait révélateur. Alors, je ne sais pas, on pourrait évidemment réfléchir sur la spécificité américaine du thème du monde perdu. Par exemple, enfin, je ne veux pas revenir encore aux dinosaures, mais j'observe une dinomania du côté américain qui est absolument stupéfiante. Je ne sais pas du tout pourquoi les Américains vouent un tel culte aux dinosaures et pourquoi Spielberg va devenir le grand cinéaste des dinosaures, comme M. Gurney va devenir le grand spécialiste iconographique des dinosaures. Bon, j'ai ma petite idée sur le sujet, mais c'est assez étonnant de voir que les Américains ont toujours un œil ouvert sur le passé. Contrairement à une idée répandue que les Américains sont constamment dans le futur, qui sont passionnés par la mode, ce qui change, je pense que c'est une vision qui n'est pas tout à fait juste. Je pense que chaque Américain, et d'ailleurs Spielberg le montre très bien dans Jurassic Park, a un pied dans le progrès technique, et en même temps un pied dans l'archaïque. Et ce qui est extraordinaire dans Jurassic Park, c'est qu'évidemment, au départ, nous avons le theme park, le parc à thème typique de la société américaine, où on emmène ses enfants. Tu as été sage cette semaine, tu vas voir les dinosaures. Merci, papa. Et en fin de compte, ça se passe très mal. Évidemment, la technologie ne marche pas et les dinosaures se révoltent. Et bien, cet accident, cette catastrophe, en fin de compte, est tout à fait américaine lorsque on analyse beaucoup d'œuvres. Et Horizon perdu, c'est également une sorte de dérèglement, hein, parce que, Gilles ne peut pas parler de tout, mais il se trouve que parmi les Européens enfin les occidentaux qui ont été enlevés entre guillemets dans cette lamasserie, il y a aussi quelqu'un qui déteste l'endroit où il est.
C'est le frère. C'est le frère du diplomate.
C'est le frère, évidemment. Et lui dit, prononce cette phrase terrible, en s'échappant d'ailleurs, il va dire, je vais faire bombarder cet endroit. Ça, c'est une réflexion. Et on voit très bien qu'il y a deux façons d'envisager le monde perdu, soit d'une manière merveilleuse en disant c'est un avenir possible, et puis aussi ceux qui ne supportent pas, en fin de compte, cette perpétuation de l'arché, cet univers archaïque, en fin de compte, qu'il faut absolument détruire. Et toute l'histoire du monde perdu, c'est cette tension, en fin de compte, entre progrès et régression, entre tentation d'y finir ses jours et en même temps la tentation de l'annihiler complètement. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on dit, bah oui, c'est de la fiction. Mais non, c'est sans arrêt en prise avec l'histoire. Sans arrêt. C'est pour ça que j'insiste sur les horizons perdus dans les années 30, parce que je pourrais prendre d'innombrables exemples littéraires qui montrent en fin de compte que la fin du monde perdu laisse augurer des lendemains terribles. Il y a d'innombrables exemples. Et on pourrait peut-être, alors là, on ne va pas se concentrer sur les années 30, mais peut-être aujourd'hui, ce serait intéressant de trouver d'autres exemples qui montrent que, en fin de compte, bah, on trouve beaucoup plus de situations apocalyptiques ou post-apocalyptiques que véritablement de monde perdu. Sauf, évidemment, la vogue extraordinaire de la fantasy. Parce que la fantasy n'est pas autre chose, justement, que cette volonté de perpétuer un univers merveilleux dans un monde de plus en plus sinistre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'avais une question à vous poser en tant que spécialiste des mondes perdus et des horizons perdus. Est-ce que l'existence d'un monde perdu sur Terre n'est pas considérable comme un blasphème pour les chrétiens ?
Oui, on peut voir la chose comme ça. Mais c'est vrai, surtout que ces univers sont toujours des univers barbares. Ils sont barbares, primitifs, ils refusent le progrès, sont des univers sans Dieu. Donc ça nous ramène à quoi ? À la colonisation. C'est pour ça qu'évidemment, les premiers mondes perdus réels, en Afrique noire par exemple, étaient détruits. Et ne parlons pas de ce qu'ont fait les conquistadors en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ils ont trouvé des villes extraordinaires, le temps de dire qu'est-ce qu'elles sont belles, ils les avaient détruites.
Il y a dans, c'est une histoire vraie, la révolte du Bounty, on voit ces marins qui tombent amoureux de filles à Tahiti, etc. Et on voit le choc que ça représente pour certains Anglais qui trouvent, entre guillemets, le paradis sur Terre. Ils ne trouvent pas le paradis après la mort, ils le trouvent de leur vivant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épopée du Bounty, mais certains des gradés du Bounty considèrent que leurs marins sont en train de pécher. C'est un péché terrible.
Oui, tout à fait. Il y a un aspect religieux du monde perdu très intéressant. Oui, c'est un univers édénique. Hein. C'est exactement l'Éden. L'Éden, je vous le rappelle, c'est avant tout un univers où l'homme et l'animal coexistent. Sans aucun problème. Hein, Oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, la geste arthurienne, mais qui est de la fantasy, de la fantaisie hein, aussi. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Oui.
Il voulait dire quelque chose.
Well, I think please do. That maybe some of the most dangerous utopias in our time have been some of the modernist utopias that have destroyed the past, especially in the 1950s when great sections of old cities were destroyed to put in buildings and cities that were at one time utopian dreams but have turned out to be dystopian. And you mentioned Americans' interest in the past. We invent the past or invent an ideal past because we don't have the past that you have here. And in my case, I love to dream about ideal cities because I grew up in suburbia. I grew up in this dystopia. So it's appealing for me to dream about a world that has a long past, that it respects, and a tradition of learning where people learn from different cultures and from not only from humans but from other modes of life. And I think. Yep.
Bon, on parle de l'utopie et de la dystopie, mais en fait, une des utopies qui a fait le plus de ravages aux États-Unis, ça s'est passé dans les années 50, quand on a démoli des quartiers entiers de vieilles villes pour installer des immeubles absolument monstrueux. Et les Américains, ajoute James Gurney, s'ils s'intéressent au passé, en fait, ils s'intéressent à un passé rêvé, fantasmé, parce qu'ils n'ont pas le passé que nous avons en Europe. Et what was the third point? you say that dream past and about the dinosaurs. Oh, yes, thank you. Merci. Oui. Et en fait, une des raisons qui l'ont poussé à imaginer, à conceptualiser, à illustrer un monde qui effectivement participe du passé, mais qui est aussi beau, c'est parce qu'il a passé son enfance dans ces banlieues américaines, alors que, bon, si vous avez vu le cinéma, vous voyez à quoi ça peut ressembler, les maisons toutes pareilles, les supermarchés, les malls, etc. Quoi.
Sorry about that.
No, sorry, but too long.
No.
You can continue, but stop.
Ok. Mais, en fin de compte, vous êtes en train de nous dire, d'une certaine façon, que la dinotopia fait partie du rêve américain.
Well, I mean, it grew from the readings that I did about other cultures, especially when you think of Lost Horizon, some of the explorers of Tibet, Sven Hedden and Heinrich Harrer, and some of them who wrote about this culture that was able to fend off the influx of the Western cultures for a long time. Even maybe now it's beginning to crumble with China breaking it down. But it was a very robust culture for a long time.
Et en fait, donc là, il revient sur une partie de sa précédente réponse que j'avais pas traduite. Hein, donc les dinosaures d'Inotopia, c'est en fait cette volonté qu'il avait de montrer des gens qui sont élevés, qui sont éduqués, en contact permanent avec d'autres cultures. Et c'est ça qui l'a fasciné, qui a aussi une source d'inspiration de l'utopie, notamment puisqu'on a parlé du Tibet, qu'il avait déjà évoqué tout à l'heure. Il s'est beaucoup inspiré des récits des premiers explorateurs qui ont découvert le Tibet au XXe siècle et qui étaient très admiratifs parce que c'était un pays qui avait réussi à résister à l'invasion de l'homme occidental. Bon, maintenant, malheureusement, ils sont en train de s'effondrer, pas à cause de l'Occident, mais à cause de la Chine. Mais ils ont très très longtemps, c'était un peuple très très robuste, très rustique, ils ont très très longtemps résisté à cette homogénéisation du monde.
Tout à fait. Oui, donc peut-être Gilles pourrait nous parler d'autres formes d'utopie dans des lieux justement qui ont été conquis très tard. Je pense au pôle. Hein, les pôles ont été conquis au début du XXe siècle seulement.
Bah, disons que le pôle, les deux pôles, le pôle nord, le pôle sud plus tardivement évidemment, ont été un support de l'imaginaire aussi. Et donc on a évoqué très brièvement Lovecraft tout à l'heure. Alors c'est assez intéressant de voir que par exemple dans Les Montagnes Hallucinées, qui est un texte de 1936, donc qui évoque très clairement les différentes expéditions au pôle sud, on a une sorte de curieuse conjonction entre l'univers du pôle, justement, et le Tibet, puisqu'en fait, le roman de Lovecraft, la longue nouvelle de Lovecraft, est très influencée par Nicolas Roerich, qui est un peintre russe, donc qui a immigré au Tibet, devenu mystique, et qui décrit, enfin, dans ses tableaux, qui décrit des villes imaginaires, en quelque sorte, qui sont assez proches que celles que décrit Lovecraft dans Les Montagnes Hallucinées. Alors, la différence, évidemment, c'est que là, l'expédition se transforme en véritable une sorte d'initiation à l'horreur, hein, puisqu'on retrouve en fait des créatures extraterrestres qu'on croyait disparues depuis longtemps, qui au départ sont perçues à l'état de fossiles. Et là, on trouve un rapport à la science qui n'est justement pas décalé, comme vous le disiez tout à l'heure, mais au contraire en prise directe avec la science de l'époque, notamment la biologie. Et on s'aperçoit que ces créatures qu'on croyait d'abord simplement, qu'on trouve simplement à l'état de représentation sur les murs des cités englouties, donc sous la glace du pôle, et ensuite qu'on retrouve sous forme de fossiles, hein, donc d'objets, d'artefacts, pas d'artefacts, d'objets, je veux dire, se révèlent en fait des véritables créatures. Elles sont toujours là, littéralement. Elles ont toujours été là, elles sont toujours là. Donc là, on débouche effectivement sur le cauchemar et l'horreur. Mais par contre, l'utopie, elle est bien là, mais l'utopie, elle est dans un passé extrêmement lointain. Et ce qui nous amène effectivement à une relativisation totale de l'homme civilisé. L'homme civilisé n'apparaît que comme finalement un épiphénomène dans l'histoire des civilisations et du cosmos. Et là, il faudrait évidemment évoquer d'autres grands textes, disons, mettant en scène des histoires de l'univers ou des univers, en partie Olaf Stapledon, Last Man and First Man, les premiers et les derniers, qui mettent en scène effectivement des histoires de l'univers à l'échelle de d'éons, en quelque sorte, c'est-à-dire de centaines de millions d'années. Et donc le relativisme lovecraftien est intéressant à ce niveau-là. Et donc c'est une sorte de pendant, disons, pessimiste, on va dire, et relativiste par rapport à ce qu'on a évoqué, ce que j'évoquais tout à l'heure avec les horizons perdus du type, disons, retraite dans une lamasserie au Tibet. Voilà.
Ce qui me frappe, en fin de compte, c'est la science-fiction et pratiquement tous les autres genres littéraires liés à l'imaginaire en général ne cessent de nous dire la même chose depuis près de deux siècles. C'est-à-dire que ce qui est mort n'est pas mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, derrière tout le fantastique, la science-fiction, c'est gigantesque, hein, il y a sans arrêt ce discours implicite et parfois explicite. Ce que vous réveillez va, en fin de compte, déferler un jour ou l'autre. Alors Lovecraft, évidemment, c'est un des exemples les plus spectaculaires. Mais pensez évidemment à The Lost World, c'est-à-dire le deuxième film qui suit Jurassic Park et qui, en fin de compte, pompe à la fois le monde perdu de Conan Doyle d'une manière absolument lamentable entre nous. Bravo Michael Crichton et paix à ses cendres. Mais vous avez aussi King Kong. Je veux dire, c'est pas un hasard si King Kong revient, parce que la figure de King Kong, gigantesque figure mythique qui ne cesse de dire que ce qui est prétendu mort va sans arrêt revenir. C'est-à-dire le monde perdu est en fin de compte une chose que l'on peut tuer mais qui renaît en permanence. Et c'est étonnant de voir que James Gurney, par le biais de l'art, en fin de compte nous dit que ce qui est mort, ce qui est selon la science 59 ou 60 millions d'années, eh bien, en fin de compte, peut-être contemporain de l'humain, c'est un rêve sans doute et un délire, mais c'est superbe du point de vue esthétique. Mais derrière toutes ces figures du retour, on a en fin de compte des figures de l'effroi. Et derrière toutes ces figures de l'effroi, on a la réalité même. Parce que c'est ça qui m'intéresse personnellement, c'est de voir en fin de compte qu'il y a sans arrêt concomitance, parallèle en tout cas très, très stricte, entre le thème du monde perdu et l'évolution de l'histoire. Et dans les années les plus délicates, les années 1905, les années 1930, j'ose pas trop parler des années actuelles parce que je voudrais pas faire peur aux gens, on trouve à peu près les mêmes mythes qui se fondent toujours sur la résurrection, la résurgence, le retour. C'est-à-dire le monstre revient pour nous dire traditionnellement, au sens étymologique, le monstre montre. Il montre ce qui va se passer. Et King Kong et tous les autres ne cesse de montrer la voie toujours dangereuse, et le père Perrault est une sorte de dinosaure qui, au moment de mourir, nous dit « Attention, c'est assez grave ce qui se passe, attention à ce qui se passe. » Et c'est formidable de voir que ce sont en fin de compte des écrivains d'imagination qui sont souvent les plus à même de nous donner en fin de compte l'orientation, fût-elle la plus terrible, hein, faut bien le dire. Est-ce qu'on peut, à moins que vous vouliez encore dire quelque chose. On va vous laisser 5 minutes pour poser des questions, si vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Oui,
peut-être on peut passer un micro.
Oui, bonsoir. Juste une remarque à propos des mondes perdus et de leur rencontre avec la religion. Il y a eu à la fin du Moyen-Âge l'évocation du royaume du prêtre Jean en Afrique qui était un royaume chrétien et qui a provoqué de nombreux voyages et les débuts de la colonisation. Voilà. Ma question elle portait sur l'Atlantide. Je voulais vous penser si à votre sens l'Atlantide n'était pas le premier des mondes perdus.
Oui, mais bon, On a suggéré très très fortement tout à l'heure de parler de l'Atlantide, mais le sujet est tellement gigantesque que j'ai déjà ici d'ailleurs consacré une ou deux tables rondes à l'Atlantide. Donc je vais me répéter, il est évident que l'Atlantide est non seulement le premier monde perdu, mais c'est sans doute la première utopie. C'est très, très, parce que, en fin de compte, le texte de Platon reprend une bonne partie de la République. Hein, en fin de compte, le modèle atlantidien reprend, en fin de compte, les fondements de la République. Donc, déjà, se présente comme un monde parfait, un monde qu'il faut suivre, mais un monde qui est en train, qui va être détruit. Et ce qui est extraordinaire dans le Timée et dans le Critias, c'est qu'on n'a que ces deux textes-là sur l'histoire de l'Atlantide. Le Timée raconte l'histoire de ce monde extraordinaire qui finit par mourir en une nuit, et on prend la lecture au Critias, et d'un seul coup, le Critias nous dit « Eh oui, l'Atlantide était ce monde extraordinaire », comme s'il n'était pas mort, comme s'il n'était pas mort. Donc quand on passe du Critias, du Timée au Critias, c'est comme l'Atlantide, comme si l'Atlantide n'était pas mort. Il suffit, en fin de compte, de passer de l'un à l'autre, pour, en fin de compte, susciter sans doute le plus fort thème littéraire de toute l'histoire, qui a inspiré des savants, malheureusement, et qui a inspiré, heureusement, des centaines, sans doute des dizaines de milliers de romanciers. C'est étonnant, c'est un mythe qui continue de fonctionner et qui résume à lui seul pratiquement toute la destinée dont on parle ce soir, en effet. Merci de cette question, mais je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole. C'est vrai que le thème atlantidien est très très proche. Mais je m'arrêterai là parce que je suis un peu intarissable sur un sujet comme ça.
And I would just add to that that a lot of Plato's ideas influenced the New Testament and some of the early Christian ideas and the idea that there is another world beyond our own. That in some ways is more real than our own.
Oui, donc il rajoute que les idées de Platon ont influencé le Nouveau Testament, l'idée qu'il existe un monde meilleur que le nôtre. Gilles Dumay, excusez-moi. Donc les idées de Platon ont influencé le Nouveau Testament, l'idée qu'il existe un monde meilleur que le nôtre.
Je vous en prie.
Je voulais revenir sur l'expérience qu'a relaté Thomas D. tout à l'heure au Laos, en découvrant donc des personnes, on ne peut pas dire une civilisation, mais quelques personnes qui n'avaient jamais vu de blanc, qui étaient donc un certain monde perdu. Je me souviens qu'à un certain moment, on avait décrété que, vu l'évolution de l'exploration de notre planète, il n'y avait plus de terra incognita, véritablement, sur la Terre, et donc que le thème du monde perdu allait disparaître par inanition. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, il y a le monde perdu peut continuer comme thématique via l'Atlantide et d'autres thèmes qui ressortent purement de l'émerveillement et de l'imaginaire. Et puis d'autre part, est-ce que l'extraordinaire exploit qu'a réussi la science-fiction depuis, la pure science-fiction depuis les années 30-40, n'est-ce pas l'exploration de nouveaux mondes perdus que sont les planètes ?
C'est tout à fait juste. D'ailleurs, on observe au moment où s'épuise d'une certaine façon le thème du monde perdu, eh bien, du côté américain notamment, on va projeter vers les planètes, en effet, des mondes nouveaux ou des mondes très anciens. D'ailleurs, curieusement, dans les années, ce qu'on a appelé le Golden Age, on trouve des planètes qui sont peuplées de dinosaures. Donc, ça recommence. Et on trouve, par exemple, des planètes, on parlait de la Terre creuse, la Lune est creuse, Mars est creux. C'est-à-dire, on projette sur le plus loin possible, vu qu'évidemment, il y a des soucis de vraisemblance, évidemment, on projette dans l'espace interstellaire ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Ceci dit, je reviens toujours à ce que disait Bernard Revelmans, lui ne croyait pas que, en fin de compte, tous les espaces terrestres avaient été totalement conquis. Il reste, d'ailleurs, c'est une sorte de croyance, il faut absolument croire que tout n'est pas fini. Et en fin de compte, l'écologie n'est pas est très liée aussi à cette croyance, pour le meilleur et pour le pire. Tarzan, d'ailleurs, est le premier écologiste. Tous les discours de Tarzan, c'est tout de même un héros des mondes perdus, Tarzan, sinon un des plus grands héros. Il y a d'ailleurs une histoire de Tarzan qui se déroule avec des dinosaures, Tarzan le Terrible, si ma mémoire est bonne. Et en fin de compte, il n'a pas du tout, lui, une vision terrible, justement, de la jungle, de la savane, de la préhistoire. C'est plutôt positif pour lui, en fin de compte. C'est l'homme qui est le grand ennemi, hein, selon Tarzan. L'homme, c'est-à-dire le civilisé. Ça, c'est un mythe gigantesque, le mythe de Tarzan. Voilà un grand mythe moderne. Aussi, hein, tout à fait. Tout à fait. Eh bien voilà, merci pour votre participation et à bientôt. Et merci aux intervenants, bien sûr.